Bonsoir à tous. Donc, nous sommes là pour le conseil municipal du 12 novembre 2025. Donc, je procède à l'appel. Jackie Sommeveil, Vanessa Savigny, Jean-Pierre Monnet, Myriam Charmadi, Gisèle Jeunin, Raymond Baudin, Jean-Pierre Marion, Francine Arrigoni, Firmin Lopez, Pierre Buna, absent, pouvoir à Francine Arrigoni, Béatrice Rosan, absent, pouvoir à Jean-Pierre Marion, René Roja, absent, pouvoir à Raymond Baudin, Nicolino Tandambé, absent, Patricia Morgado, absent, pouvoir à Firmin Lopez, Renaud Mélinon, Bérangère Champon, Anne-Cécile Germain, je ne sais pas, Delphine Raymond Allong absente et pouvoir Anne-Cécile Germain si elle arrive. Normalement, c'était préparé. Voilà, bravo. C'était tout orchestré. Véronique Bérard, Alexandre Luxos, Nicolas Bossu-Picard, Eric Silvestrini, Christine Curteau, Daniel Mansip, pas de nouvelles, Cécile Gaillard non plus et Cécile Bizion non plus. Bon, le quorum est atteint. Donc, je commence par le procès-verbal du Conseil municipal du 24 septembre 2025. Est-ce qu'il y a des observations avant que je mette au vote? Non. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, je propose qu'on désigne Nicolas Bossu-Picard comme secrétaire de séance. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, on passe à la délibération 2025-63. C'est le débat d'orientation budgétaire. Et je laisse la parole à l'adjointe aux finances, Myriam Charbadi.
Allez, bonsoir à tous. Donc, on va démarrer ce conseil avec donc le débat d'orientation budgétaire. Ce soir, je tenais à vous dire voilà, le grand sens de responsabilité qui accompagne eh bien, cette délibération. Pour rappel, ce document constitue une étape essentielle de notre cycle budgétaire. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice comptable hein, ou d'une formalité réglementaire, mais de plusieurs réflexions collectives. Donc, pour rappel, la dernière commission finance a eu lieu le 5 novembre dernier. Nous avons pris le temps de regarder lucidement la situation financière de la commune, d'analyser les grandes tendances économiques et de définir ensemble ces orientations qui guideront les choix pour l'année à venir. Je vous rappelle que le contexte 2026 s'annonce encore très exigeant entre l'évolution du coût de l'énergie, les incertitudes économiques, la nécessaire adaptation à tout ce qui est transition écologique et démographique et la volonté de maintenir un haut niveau de service public. Il va falloir donc conjuguer rigueur, anticipation et créativité. À Vinay, on a la chance de pouvoir nous appuyer sur une gestion qui est saine, maîtrisée et sur des projets porteurs de sens pour aussi notre territoire. Notre ambition reste la même, celle de préserver l'équilibre financier de la commune, tout en essayant d'investir au mieux et de façon raisonnée pour la qualité de vie des Vinois et le dynamisme de notre bassin de vie. Ce ROB 2026 va s'articuler donc autour de trois grands axes. Le maintien d'une situation financière solide, garante de notre autonomie locale. La poursuite des investissements qui seront donc raisonnés, comme je vous l'ai dit, au service des habitants et de l'attractivité de la commune. Et enfin, une attention constante à la maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un contexte d'évolution des charges et des ressources locales. À travers ces orientations, c'est une vision d'ensemble que nous allons porter, celle d'une commune responsable, engagée et confiante dans l'avenir et qui restera fidèle à ses valeurs de proximité et de solidarité. Je vous propose donc de parcourir ensemble eh bien, tous ces éléments, les perspectives que nous aurons définies et puis les choix stratégiques qui donneront donc le tempo pour le budget 2026. Pour rappel, le budget sera voté en fin d'année. Donc, sur les principales mesures de la loi de finances 2026, ce qui a été donc mis en avant et ce que nous devons prendre en compte hein, sur ces principales mesures, c'est donc la stabilité de l'enveloppe de la DGF à périmètre constant, la suppression du FCTVA en fonctionnement. Toutefois, le remboursement du FCTVA continue à s'appliquer aux dépenses éligibles de 2024 et 2025, pour rappel, et donnant lieu à un versement du FCTVA en 2026. Les dépenses d'investissement sur le taux du FCTVA est maintenue à un peu plus de 16%. Une augmentation de la dotation de péréquation des communes, donc entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. La revalorisation forfaitaire des bases d'imposition à plus de 1%. Et puis la poursuite de la hausse du taux de cotisation patronale à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités, qui passera à plus de 3% et qui, pour rappel, était de 34% en 2025 et qui sera de 37% au 1er janvier 2026, ce qui n'est pas rien. Voilà pour le contexte national. Si l'on se concentre, nous, au niveau de la commune, les orientations doivent constituer un budget prudent. On doit maintenir le cap déjà depuis 2 ans maintenant. Mais pour 2026, donc, il sera poursuivi la mise en œuvre d'une politique de sobriété énergétique, maintenir un engagement très fort auprès des enfants et de la jeunesse de la ville, poursuivre le soutien aux personnes les plus vulnérables avec le CCAS de la ville, développer toujours et encore le lien social entre les habitants et puis le développement de la vie locale, le maintien des actions culturelles et patrimoniales qui permettent de créer donc ces liens, comme le Salon du Livre, la Fête de la Musique, les Fêtes de la Rosière, la Fête du Saint-Marcelin et de la Noix, ainsi que le soutien encore et toujours aux associations de la ville. Au niveau des dépenses, les orientations que nous proposons sont donc, comme je l'ai dit auparavant, la poursuite des travaux d'économie d'énergie, la mise en œuvre d'une politique d'achat permettant de diminuer les coûts et développer les groupements de commandes avec d'autres collectivités, regrouper les achats permettant d'obtenir les meilleurs prix lors des mises en concurrence, et puis continuer à inciter en interne une politique qui sera menée pour ces économies. Au niveau des dépenses de personnel, les orientations proposées, c'est de ne pas augmenter par rapport au budget 2025, poursuivre la maîtrise de nos dépenses de personnel sur 2026, étudier chaque départ, tout ce qui est retraite, démission, et donc de ne pas faire de remplacement systématique, ajuster l'organisation des services pour limiter les remplacements suite au départ, maintenir des avantages sociaux pour les agents avec une augmentation de la participation employeur pour la mutuelle, chose sur laquelle on s'était engagé. Et puis, tenir compte de l'augmentation des cotisations CNRACL, comme je vous l'ai dit en introduction, à plus de 3% par an lissé sur 4 ans. Au niveau des recettes, il y a quand même quelque chose à mettre en avant qui est important. Notre grande politique d'investissement sur ce mandat, qui a donc frôlé les 17 millions d'euros, nous continuons notre politique de non-augmentation. Donc, contrairement à ce que l'on a pu entendre et ce qui a été dit et relayé sur certains textes, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition. Il faut savoir que malgré les contextes sociaux, les augmentations que j'ai pu vous mettre en avant sur ce que je viens de vous dire, par exemple la CNRACRL, différents taux qui ont augmenté. Sur ces taux-là, ça correspondrait à peu près à 30 000 euros et l'augmentation au niveau des coûts d'énergie à 180 000 euros. Malgré cela, on s'en est sorti avec beaucoup de rigueur Et nous continuons donc à bâtir un budget qui restera plutôt prudent et qui gardera cet engagement sur la non-augmentation des taux d'imposition. Donc la ville engagera deux nouvelles actions afin d'optimiser ses recettes courantes liées aux prestations des services municipaux. Il s'agira essentiellement de rechercher des pistes de recettes nouvelles, mises à disposition de toitures par exemple pour le photovoltaïque, avoir une réflexion sur l'augmentation des tarifs villes, concessions cimetières ou pour le périscolaire, afin d'intégrer les augmentations qui seront liées à l'inflation, les refacturations des prestations des agents communaux et des dépenses engagées par la ville pour, par exemple, le fonctionnement du budget de Vinet Chaleur-Bois. Donc, ce sont des pistes que l'on continuera d'étudier. Les principales opérations pour l'exercice 2026 pour l'investissement seront donc de poursuivre les acquisitions nécessaires à la sécurisation du carrefour des Trois-Rois, des travaux d'économie d'énergie, continuer le gros entretien sur nos voiries communales, de l'entretien sur les bâtiments communaux, donc on en a déjà fait pas mal, mais il nous en reste, et puis l'acquisition de matériel et équipement pour nos services, ainsi que des logiciels pour moderniser certaines techniques de travail. Sur les recettes 2026, le financement de ces travaux sera assuré par les ressources propres, donc par un autofinancement qui depuis plusieurs années a été travaillé et reste sain, les amortissements et le FCTVA. Les cessions de terrain et de bâtiments, comme on le verra sur une prochaine délibération pour le bâtiment CONI. Les subventions de différentes collectivités et organismes, notamment pour le projet sur l'école, anciennement l'école Mayette. Si on continue sur les opérations 2026, c'est aussi poursuivre l'optimisation de notre réseau avec la mise en place d'un ballon tampon pour Vinet Chaleur-Bois. Finaliser l'extension du réseau avec le raccordement des bâtiments comme le château Montvinet ainsi que ses annexes. Et puis poursuivre la réflexion sur l'installation d'une production d'électricité par le photovoltaïque sur la toiture de la chaufferie par de l'autoconsommation. Sur le budget du château Montvinet, en 2025, les dépenses du budget Montvinet concernaient la poursuite des études de maîtrise d'œuvre pour la création d'un hôtel-restaurant. La phase étude se poursuit en 2026. Aujourd'hui, on est dans l'analyse de nouveaux bureaux d'études, étant donné, pour rappel, que le premier n'était pas au niveau que l'on attendait. Je crois avoir fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des questions ?
Questions, des observations ? Je rappelle qu'il n'y a pas de délibération, c'est juste un débat.
Ah oui, il y a quelques observations. Donc, vous nous expliquez que vous allez continuer à investir, entre autres sur des panneaux solaires, etc., alors que déjà la situation financière est quand même limite au niveau des investissements. Ça, certainement, à cause de l'acquisition... de diverses acquisitions qui ont été faites depuis 4 ans, entre autres le château qui coûte cher, mais aussi régulièrement, en tous les cas depuis 4 ans, une perte significative au niveau de la régie de chauffage, au niveau du foyer logement, ça fait quand même des grosses pertes. Alors, je m'interroge comment vous allez pouvoir continuer à investir alors qu'il y a déjà beaucoup d'investissements en attente et en tous les cas de projets avec des investissements importants en attente, le château, et comment vous allez pouvoir régler, puisque il va falloir investir pour pouvoir régler les problèmes du foyer logement et du réseau de chaleur, comment vous allez pouvoir faire tout ça?
Ouais. Alors déjà, une rectification de termes. Déjà, le réseau de chaleur n'est pas en déficit depuis 4 ans. Il est en déficit depuis sa création, puisque c'était structurel. Et quand il a été créé, il était créé structurellement comme ça, même s'il était couvert partiellement par la station thermique. Mais pour autant, il y avait quand même un déficit sur le réseau lui-même. Donc aujourd'hui, de toute manière, la loi oblige que ce soit des choses séparées. Donc de toute manière, le déficit structurel était indispensable. Aujourd'hui, ce déficit, il est maîtrisé. Et il y a eu de l'argent, puisque c'était quand même sur un investissement réfléchi à son époque. Et ce n'était pas nous, donc j'en parle en toute liberté. Et aujourd'hui, nous, on n'a pris que l'héritage. Et aujourd'hui, il y a des engagements. Mais néanmoins, la réserve financière qui est sur le compte Vinet Chaleur Bois permet d'assurer la pérennité du réseau, puisque lorsqu'on va être peut-être... On pourrait imaginer être en difficulté, on aura fini de rembourser les emprunts et auquel cas il n'y aura plus de déficit. Donc aujourd'hui, sur la pérennité du réseau de chaleur, je suis serein, il n'y aura pas de souci, d'autant plus qu'on va raccorder des bâtiments nouveaux, l'ancienne Logeco, le Martinet, qu'on a vendu à Pluralis et qui, eux, vont se raccorder là, pour la saison de chauffe prochaine, et d'autres projets qui arrivent et qui peuvent être réfléchis avec éventuellement d'autres copropriétés. Mais en tous les cas, même si on en a resté là, le réseau de chaleur, lui, est périn dans le temps, il est sécurisé, sauf, bien sûr, et ça on ne peut pas savoir, si le bois devrait faire x10 ou x50, ben à ce moment-là on changerait ou on augmenterait le tarif, parce que d'ailleurs ça serait logique, mais si on en est là un jour, c'est toute l'énergie et tous les systèmes, parce que le problème de l'énergie, il est à peu près constant. La chance qu'on a eue d'avoir ce réseau de chaleur, et aujourd'hui où on peut interroger, je pense, les utilisateurs, dont la ville, on n'a pas eu de flambée du coup du prix de l'énergie, parce qu'on a pu maîtriser l'énergie qu'on produisait. Et ça, c'était quand même, à mon avis, une source importante. Donc là-dessus, je ne suis pas inquiet. Pour moi, sur Vinet Chaleur Bois, ce n'est pas une discussion. Le projet a été construit à l'époque d'une manière sereine financièrement, même si le résultat d'exploitation fait apparaître un déséquilibre. Néanmoins, le réseau reste périn dans le temps avec la réserve qu'on a. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était pour la première question. Sur les investissements, aujourd'hui, on a investi 17 millions. Ces 17 millions ont été couverts soit par de l'emprunt, soit par des subventions, soit par de l'autofinancement. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci là-dessus. Et les futurs investissements, en particulier quand on parle du photovoltaïque, c'est de l'investissement qui s'autogénère, puisque soit elle est portée par des porteurs de projets qui financent eux-mêmes leur installation, et du coup, ça coûte zéro à la commune. Soit on est sur un système où on en participe, mais la rentrée financière couvre l'emprunt qui pourrait éventuellement servir à faire. Mais on n'a pas encore aujourd'hui de modèle, savoir sur quel modèle on va partir. Est-ce qu'on va partir sur une mise à disposition de terrain ou de toiture, ou si on partira sur un investissement plus maîtrisé avec de l'autoconsommation. Et à ce moment-là, c'est le résultat soit de l'économie de la consommation, soit de ce qu'on revend qui permet de rembourser l'emprunt. Mais c'est généralement des investissements qui sont stériles. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus pour la commune. Et c'est pas... Contrairement à ce que c'est facile, et en plus on va être dans une période qui va être super simple de mettre ça en avant, c'est pas l'achat du Mont Vinet qui va empêcher de faire de l'investissement. La preuve, le Mont Vinet pesait 1,7 million, et on a quand même investi 17 millions. Donc toute proportion gardée, je pense qu'on ramène ça dans des choses proportionnelles. Donc pour moi, c'est un faux débat, et le Mont Vinet et le réseau de chaleur. Et aujourd'hui, on pourra investir à la hauteur de ce que permettra de dégager l'autofinancement. Mais de toute manière, il n'y a pas de grand projet, il n'y a pas de construction de gymnase, il n'y a pas de construction de salle de spectacle ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a fait les écoles, on a mis les écoles en sécurité. On a aujourd'hui rénové le gymnase, doublé le gymnase pour supprimer la salle des arcades qui était énergivore et qui ne correspondait plus au niveau réglementaire. On va avoir la possibilité de transférer les associations qui ne le sont pas encore dans la maison des associations dans le courant de 2026. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de péril sur l'investissement. On ne peut pas laisser faire croire aux Vinois qu'il y a péril dans les finances. Sinon, on n'en serait pas là et on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait et on n'en serait pas sur la présentation qu'on fait du budget. Et si on était en péril, on vous proposerait une augmentation d'impôt sur le budget 2026, et ce qui n'est pas le cas. Donc je vous rappelle quand même qu'on a perdu Réclassé N, alors je ne sais plus comment on l'appelle, CNACL. Rien qu'à elle seule, c'est 30 000 euros par an, qui correspond à un point d'impôt. C'est-à-dire que si on avait voulu faire, si on avait été en difficulté, on aurait dû augmenter d'un point d'impôt pour couvrir ça. On ne l'a pas fait. L'augmentation de l'énergie, c'est 180 000 euros de dépenses supplémentaires. On n'a pas augmenté les impôts pour autant. Donc je ne pense pas qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un risque financier pour la ville de Vinay. Je ne peux pas laisser supposer ça. Ce n'est pas possible. D'autres observations ? S'il n'y a pas d'autres observations, on passe donc au point 64, qui est le traitement comptable des créances éteintes. Et je laisse toujours la parole à l'adjointe aux finances.
Donc certaines créances demeurent irrécouvrables, même après plusieurs procédures de recouvrement, et notamment les créances éteintes qui sont définitivement annulées par décision judiciaire, soit pour clôture insuffisante d'actifs, selon le règlement judiciaire, ou pour surendettement avec une décision d'effacement de dette. Donc pour ces créances éteintes, la ville et le service de gestion comptable ne pourront plus intenter d'action de recouvrement. Donc on a un montant de titres non recouvrables de 124,20 € pour des effacements de dette, tout simplement. Je passe à la délibération. Oui, pardon, c'est vrai. Oui, parce qu'il y en avait deux de la suite.
Oui, vas-y. Il faut voter, non ?
Oui,
d'accord, non, mais...
Contrairement au débat budgétaire, qu'on ne vote pas, ça, on vote. Donc, des observations, déjà, sur... Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. L'admission en valeur.
Pardon, j'enchaînais avec le même type de délibération, mais là, pour les admissions non valeur de produits irrécouvrables... Donc l'admission non-valeur de créances est décidée par le conseil. Donc elle est demandée par le comptable public lorsqu'il rapporte des éléments propres à démontrer et que malgré toutes les diligences qu'il a effectuées, il ne peut en obtenir le recouvrement. Donc cette procédure correspond à un seul apurement comptable. Aujourd'hui, nous avons des admissions non-valeur de recettes émises par l'ancienne régie municipale d'électricité pour un montant de 1 891 €, donc avec des poursuites sans effet. Nous avons également des admissions non-valeur de recettes énumérées pour un montant de 580 €, voilà, par rapport à des décès ou pareil, des poursuites sans effet ou des montants inférieurs au seuil de poursuite. Et puis, pour terminer, nous avons des admissions non-valeur de recettes énumérées pour un montant de 2 914 €. Nous avons eu de nouveaux éléments et notamment de nouvelles coordonnées postales des débiteurs qui ont été portées à la connaissance de l'administration. Et donc là, ça s'élève pour un montant de 2 914 € que nous pourrons recouvrir.
Juste une question. Donc là, oui. On vote pour approuver les deux premiers et on refuse le dernier.
Voilà, on valide au percepteur, parce qu'en fait, c'est le percepteur qui vote les deux premiers, parce que ceux-là, il n'y a pas de discussion. Et par contre, sur les 2914, on amène quelques éléments supplémentaires et on demande à la perception de continuer leur poursuite. Bon, en toute sincérité, j'ai pas grand espoir, mais bon, on le tente quand même. Je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. 2025-66, toujours Myriam, la création d'emplois permanents.
Donc, dans le cadre de la campagne d'avancement de grade pour l'année 2025, il a été convenu de créer les postes nécessaires afin de permettre la nomination de certains de nos agents qui remplissaient les conditions statutaires. Ces créations de postes visent à accompagner l'évolution des carrières au sein de notre collectivité et à assurer la bonne gestion des effectifs dans le respect des dispositions réglementaires. Donc nous avons donc deux mises à jour au niveau des avancements de grade, une au pôle technique, donc la création d'un emploi permanent d'agent de maîtrise principal à temps complet, dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut, pour exercer des fonctions de responsable d'équipe. Donc nous verrons la suppression d'un emploi d'agent de maîtrise territoriale qui interviendra après avis du comité social territorial. Le deuxième concerne la création d'un emploi permanent d'ATSEM de première classe à temps non complet à raison de 33h30 hebdomadaires dans le cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et accessible selon les conditions de qualification définies par ce statut pour exercer ses fonctions d'ATSEM. Donc là, pareil, la suppression d'un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de deuxième classe à temps non complet interviendra après avis du CST.
Des questions, des observations? Allez, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Toujours la délibération 2025-67, recensement de la population 2026, donc recrutement des recenseurs vacataires et fixation de leur rémunération. Je laisse la parole pareil, à un autre adjoint aux finances.
Voilà, donc là, vous avez dû voir passer quelques petites informations concernant le recensement à venir et qui interviendra entre le 15 janvier et le 14 février prochain.
Date imposée par l'État. Hein,
voilà. Donc, la réalisation des enquêtes de recensement repose, on le rappelle, sur un partenariat entre la commune et l'INSEE. La répartition des rôles est fixée par la loi relative à la démocratie de proximité. Et la commune prépare et réalise l'enquête de recensement. Et l'INSEE, elle, organise et contrôle la collecte des informations. Donc, l'État est responsable de l'ensemble de l'exécution du recensement. Et le maire est le responsable de l'enquête de recensement de sa commune. Donc, pour réaliser ce recensement, il est proposé ce soir de recruter 9 agents recenseurs avec les modalités de rémunération qui sont fixées avec des modalités bien précises que demande l'INSEE.
Démocratie de proximité, j'adore, parce que imposer au maire de faire le recensement du 15 janvier au 14 février, l'année des élections, je trouve ça juste sensationnel. Mais
imposer le paiement aussi.
Ah bah bien sûr, oui, ouais. Tant qu'à faire, oui, bien sûr. Alors il y a un petit défraiement quand même. On va toucher 7000 euros. Quand même. Les observations sur la libération du recrutement des recenseurs. Le vote, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération 2025-68, c'est l'adhésion au contrat cadre 2026-2029 relatif à la fourniture, à la gestion et à la livraison des titres restaurants dématérialisés et papiers pour les agents territoriaux de l'Isère.
Donc là, l'actuel contrat cadre de fourniture de titres restaurants pour les agents arrivera à échéance le 31 décembre prochain. Ce dispositif mis en place par le centre de gestion permet aux collectivités d'adhérer à un marché mutualisé garantissant les conditions techniques et financières avantageuses. Donc, afin d'assurer la continuité de ce service et de maintenir le bénéfice pour nos agents, il est proposé que la commune renouvelle son adhésion au nouveau contrat cadre 2026-2029. Pour lequel le CDG a conduit à une nouvelle consultation. Donc, à compter du 1er janvier 2026, la société Pluxy, c'est celle qui a été retenue, devient titulaire du contrat et propose un lot unique comprenant une carte dématérialisée de paiement. Et puis, elle continuera à délivrer des titres sur support papier, ainsi qu'une une formule mixte adaptée, donc carte et papier.
Des questions sur... Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. J'en ai fini. J'en profite quand même pour remercier à nouveau notre adjoint aux finances et aux ressources, puisque notre simplification de l'administration française étant là, on a toujours un travail énorme entre ouvrir, créer, fermer des postes, tout ça pour le même agent. Donc c'est quand même un peu pénible et lourd, parce qu'à chaque fois, il y a quand même délibération, arrêté, etc. Et le travail qui a été mené pour préparer le débat d'orientation budgétaire et la préparation du budget qui est en cours. Donc je vous rappelle qu'on votera le budget le 17 décembre, pour le Conseil du 17 décembre, de manière à ce que les choses soient calées pour le début d'année. Cette année, on a encore des incertitudes sur beaucoup de choses, mais on y va comme ça, ce sera plus simple. Et on verra ce que nous prendra la loi de finances comment on gérerons le plan de finances de l'État. Je passe à la délibération 2025-69, donc c'est le projet d'acquisition par la commune d'un appartement situé aux 36 grandes rues appartenant à M. Loïc Vincent, donc cadastré section AE 202. Donc vous vous rappelez, il y a quelques mois, quelques années, même 2 ans peut-être maintenant, on a acheté l'immeuble où il y a l'opticien Minga, et en direction de la terrasse, on a un bâtiment qui touche l'immeuble où il y a l'opticien Minga et sur lequel on a à l'étage un appartement. Et aujourd'hui, M. Loïc Vincent souhaitait vendre cet appartement. Et dans le cadre de la réhabilitation du carrefour des Trois Rois, nous avons besoin d'avoir la maîtrise du foncier pour pouvoir jouer un petit peu au jeu de chaise médicale si un jour on veut travailler sur ce carrefour. Donc, et entre autres, ce bâtiment faisait partie d'une nécessité d'acquisition. Donc on vous propose d'acheter cet appartement, qui est donc à l'estimation des domaines, donc à 105 000 euros. Et j'en profite pour aller sur la délibération 2025-70, puisqu'elle va de pair. Donc cette fois, c'est toujours le 36 Grande Rue, mais cette fois, c'est au rez-de-chaussée. Et c'est un petit local commercial qui est vendu par M. Jean-Claude Marigny. Donc toujours, c'est le même bâtiment, ce qui nous permettrait de maîtriser la totalité de ce bâtiment. Là, on a une petite particularité, c'est que les domaines ont estimé ce bien à 15 000 euros. Mais M. Marigny a acheté ce bien en 2008 à 52 000 euros. Et donc, on vous propose d'aller sur un intermédiaire et d'aller sur un achat à 38 000 euros. Donc, on serait sur 105 000 pour l'étage et 38 000 euros, ce qui nous permettrait d'avoir la maîtrise complète de cet îlot pour pouvoir travailler à terme sur le réaménagement du carrefour des Trois Rois, qui, je pense, est un sujet où tout le monde est conscient qu'un jour, il faudra essayer d'améliorer ce carrefour, que ce soit pour les véhicules ou surtout pour les piétons. Est-ce qu'il y a des observations, des questions sur ces deux acquisitions ?
Alors oui, moi l'observation, c'est bien évidemment, il va falloir trouver une solution pour ce carrefour. On en parle depuis qu'on a été élu. Mais il n'y a pas de projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je sais que ça ne dépend pas que de la mairie, qu'il y a aussi le département qui est en jeu, etc. Aujourd'hui, on va acheter un certain nombre de biens au-dessus de sa valeur, alors qu'on ne connaît même pas le projet final. Et ça me dérange beaucoup. C'est la raison pour laquelle moi je m'abstiendrai sur les deux votes.
Il n'y a pas de projet pour une raison simple, c'est qu'on était aujourd'hui, on n'avait pas la maîtrise foncière de ce carrefour. Ce soir, quand les délibérations qu'on vous présente, c'est que pour la première fois de l'histoire avinée, ce soir, si on délibère sur les acquisitions qu'on vous propose, on aura la maîtrise foncière pour travailler sur ce carrefour. D'ailleurs, dès ce matin, j'ai reçu le bailleur social Pluralis pour commencer à réfléchir pour qu'il puisse voir ce qu'il pouvait nous proposer sur la partie côté Balivore, Zapatera, puisqu'on va en parler tout à l'heure, la délibération d'après. Donc, pour pouvoir travailler sur ce carrefour, c'est complexe, puisqu'il y a aujourd'hui, d'une part, des logements, d'autre part, des commerces, et on ne peut pas aujourd'hui enlever, démolir, faire un truc sans avoir des solutions de remplacement. Donc, il avait nécessité d'avoir la maîtrise complète de ce carrefour pour pouvoir jouer les chaises musicales. Donc, entre autres, ça va être de travailler sur la friche Balivore-Zapatera et puis dire on travaille là-dessus. Une fois qu'on a fait comme ça a pu être fait en face où il y a OSE et GEG aujourd'hui, on transfère le reste, les logements et les commerces d'un côté et on fait l'autre côté. On peut malheureusement, bien malin celui qui pouvait travailler aujourd'hui, on n'avait pas la maîtrise foncière. Et on n'allait pas se lancer dans des procédures d'expropriation qui sont des procédures longues, coûteuses et qui, sur lesquelles on n'a même pas certain d'arriver si on n'a pas une vraie nécessité d'utilité publique. Donc aujourd'hui, on n'a pas choisi ça et on a eu la chance, et je dis bien la chance, puisque sur le mandat, on aura acheté Poncé, l'immeuble Poncé, l'immeuble Minga, une partie de Zapatera et maintenant en face. Et tout à l'heure, je vous proposerai d'acheter la dernière partie de Zapatera. On aura donc tout maîtrisé. Et à partir du mandat d'après, c'est malheureusement la frustration des élus. On ne travaille pas pour notre mandat, souvent on travaille pour le mandat d'après. Donc c'est le mandat d'après qui aura la chance de pouvoir commencer le réaménagement du carrefour des Trois-Rois, parce que là, maintenant, tout sera possible, puisqu'on aura la maîtrise foncière. Et là, les projets pourront commencer. Faire des projets juste pour faire bien dans la presse, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on n'avait pas la maîtrise foncière, donc ce n'était pas utile. Aujourd'hui, on a la maîtrise foncière, on va pouvoir commencer à lancer les projets. Donc, oui et non, parce que oui, c'était vrai avant. Non, pas tellement maintenant, on pourra le faire. Donc là, j'en profite, je vous présente et je mettrai au vote après, parce que comme ça, ça sera complet. Du coup, pour continuer ce que je vous disais sur la maîtrise du carrefour des Trois-Rois, on a aussi une proposition d'achat, d'une proposition qu'on nous fait d'acheter le local commercial, donc ex-Zapatera, puisque Zapatera est dernièrement l'atelier des saveurs, qui donc malheureusement ont déposé le bilan. Et aujourd'hui, ce bien donc, est toujours la propriété de M. Gilles et de M. Gilles Zapatera. Donc, il nous propose d'acheter ce bien donc, et la partie commerciale, donc une partie sur laquelle on a déjà un appartement dessus, et l'autre partie donc, où il a également la parcelle 3 où il a un appartement. Donc, le tout pour 141 500. Et à ce moment-là, on aura la maîtrise complète du carrefour des Trois-Rois. Et à partir de là, rien ne s'opposera à ce qu'on ait des projets qui viennent, parce qu'ils pourront être réalisés. Au-delà du projet, ils pourront surtout être réalisés. Et c'est ce que je vous disais. Donc, du coup, sur cette partie Balivore plus Zapatera, j'ai reçu ce matin Pluralis pour leur présenter la possibilité. Et on en recevra d'autres, puisqu'on va pas, ça, on va laisser venir un petit peu les projets que pourraient être présentés par les bailleurs. L'idée étant de faire comme ce qui a été fait au niveau où il y a aujourd'hui, on a le magasin OSE EGEG, du magasin au rez-de-chaussée et des appartements à l'étage avec démolition, reconstruction, puisque c'est quand même sur un tissu urbain. Donc même si ça sera démoli en gardant de l'espace pour la route et pour les piétons, mais on aura à nouveau un bâtiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations sur ces quatre délibérations et après je les mets au vote. Donc je mets au vote la première délibération, donc la 2025-69, donc l'achat de l'appartement de M. Loïc Vincent à hauteur de 105 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La proposition donc pour la 2025-70 d'acquisition du local commercial, donc du 36 Grande Rue, donc à hauteur de 38 000 euros pour M. Jean-Claude Marigny. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération 2025-71, donc c'est la proposition et la 2025-72, la proposition d'acquisition donc du terrain du bien appartenant à M. Gilles Zapatera à hauteur de 141 500. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc ce soir, on peut dire que enfin la commune de Vinay va pouvoir travailler à un projet d'aménagement du carrefour des Trois-Rois, en sachant que c'est des projets qui vont forcément être un peu longs, mais en tous les cas, aujourd'hui, la maîtrise foncière de la commune est enfin terminée. Donc cette fois, on vient d'acheter, cette fois on va vendre. C'est un projet de cession d'un bien communal situé au 285 avenue de la Gare. Donc c'est la parcelle AK149. Donc c'est pour les plus anciens, c'est les l'extènement Conny. Et aujourd'hui, donc, on a une proposition d'achat qui a été faite par monsieur et madame Martinez, donc sous nom Cachetron, qui propose d'acheter avec la SCI Mila à hauteur de 250 000 euros. On avait une estimation des domaines à 212 000 euros. Et là, on a une proposition d'achat à 250 000 euros pour aller installer une fabrique de menuiserie aluminium. Donc, monsieur Martinez a racheté une société sur la région grenobloise et l'a rapatrié à Avinay pour faire de la menuiserie aluminium. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur la vente de ce tènement? Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, j'ai une proposition de cession d'une portion de XY communal numéro 62, donc qui est dénommé chemin des levées, correspondant à la parcelle cadastrée E3145 pour 138 mètres carrés et 512 mètres carrés. Il y a deux parcelles. Donc en fait, ça correspond au réaménagement de la zone d'élevée, donc avec la création de la zone d'élevée 2 qui a démarré aujourd'hui, on est en phase de réaliser les réseaux, là où doivent s'installer les établissements de Pagne, et en même temps la société Rivière, donc qui est négoce en noix, qui aujourd'hui a donc son installation dans la zone d'élevée 1, souhaite s'étendre sur la zone d'élevée 2 pour continuer son développement, aujourd'hui son process industriel, en particulier sur la mise sur marché de Cerneau. Et donc ils ont besoin de continuer les extensions de leur bâtiment. Donc ils achèteraient un tènement à la communauté de communes. Et entre le tènement qu'ils vont acheter et leur tènement actuel, il y a l'ancienne voie communale qui va être désaffectée puisque la nouvelle voie va être créée par la zone, par la communauté de communes dans le cadre de l'aménagement de la zone. Donc je vous propose de faire une cession à l'euro symbolique, car on est sur l'ancienne voie et elle serait vendue en l'état et on n'aurait pas besoin de la démanteler et de la vendre en l'état et pour permettre le rassemblement de ces deux tènements industriels et qui correspond à une production d'une culture locale, la noix. Donc est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je laisse la parole à Vanessa Savini pour la délibération 2025-75, qui est l'approbation de la charte des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
Donc, dit ATSEM. Donc, cette charte que vous avez en annexe 3, donc, elle a été voulue par la municipalité dans le cadre de notre projet éducatif du territoire. Elle a été initiée et élaborée dans une logique partenariale afin que chaque acteur trouve sa place. Et elle est surtout nécessaire au regard de la double autorité qu'il y a sur le temps scolaire. Donc elle a été co-construite avec le personnel ATSEM, les enseignants, le directeur de l'école maternelle, l'équipe municipale et l'inspection académique de la circonscription, après plusieurs groupes de travail. Donc cette charte, elle clarifie leur mission, leur métier, précise les principes de collaboration ATSEM-enseignant sur l'éducation partagée. Donc elle instaure un climat de travail paisible et chaque acteur a sa place. Donc vous découvrirez dans la charte les différentes thématiques et leur contenu. Tout ça, bien sûr, dans l'intérêt de l'enfant et le bien-être professionnel. Donc elle a déjà été présentée en comité social territorial et elle a eu un avis favorable le 15 septembre 2025. Donc on vous demande ce soir d'approuver cette charte et d'autoriser le maire à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Moi, je voulais quand même saluer le travail qui est mené par le pôle scolaire et sous la direction de Vanessa Savini, l'adjointe au scolaire, où aujourd'hui, on a vraiment amené une vraie plus-value. On travaille sur la professionnalisation de nos agents. On leur amène des formations parce que je pense que l'ensemble des agents sont titulaires du BAFA. Et ça, ce n'est pas négligeable sur la qualité du service qu'on peut présenter. Et donc ça, vraiment, je remercie encore tous ceux qui ont travaillé dessus, que ce soit les agents ou les élus, parce que c'est vraiment indispensable pour la bonne qualité de l'éducation de nos enfants. La délibération 2025-76, autorisation de signature des conventions passées avec les communes de résidence pour les enfants scolarisés en unité localisée pour l'inclusion scolaire, dit ULIS. Donnez ça.
Donc chaque année, on fait une convention avec les communes dont les enfants résident hors Vinay et qui utilisent qui sont dans notre classe scolaire ULIS. Donc cette année, les coûts ont été réévalués. Donc ils ont augmenté de 93 centimes par rapport à l'année dernière. Donc pour l'année scolaire 2025-2026, le coût d'un élève est de 763,95 €. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Là, c'est pareil, hein, le mise en place de ce dispositif ULIS, c'est une vraie richesse pour la commune. Et d'autant que derrière, ça a permis de faire pression auprès du collège. Et aujourd'hui, on a une classe ULIS au collège. Et ça, c'est pas tous les collèges qui ont cette chance-là. Et ça, c'est au niveau de l'inclusion, c'est vraiment une chance énorme. Et la 2025-77, toujours Vanessa Savigny, sur la convention autorisant l'occupation du domaine public communal par les services d'éducation spéciale de soins à domicile.
Donc, ces enfants en classe dispositif ULIS ont des besoins particuliers, donc notamment le CESAD et le RASED. Donc, le CESAD, qui est la fondation OVE, qui est sur Tulin, vient donc trois demi-journées par semaine et voit à peu près une dizaine de ses enfants. Donc, c'est une classe de 12 enfants, la classe ULIS. Voilà, ce soit des éducateurs, des psychomotriciennes, enfin, différents métiers de la santé dont ils ont besoin. Donc, on a un planning d'intervention. Donc, on leur met à disposition les locaux gracieusement. Donc, est-ce que vous approuvez cette convention de mise à disposition ? Il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Merci. Donc, l'ordre du jour du conseil municipal est terminé. Je vous rappelle donc que le conseil municipal... Sauf que changement de dernière minute aura lieu le 17 décembre. Ensuite, je rappelle le repas, et ça c'est peut-être Jackie qui veut peut-être faire un petit rappel sur le repas des aînés.
Bravo le téléphone.
Appuie.
Bref, le repas des aînés qui se passera à la salle des fêtes, hein, donc, et ça sera le 27 novembre, un vendredi. 28 novembre à la salle des fêtes à partir de midi pour tout le monde. Mais bon, on va refaire un tour des personnes qui pourraient éventuellement nous donner un coup de main pour le service. Voilà, donc on a demain une petite réunion, c'est un CA du CCAS, mais en même temps on en parlera, voilà, pour faire préparer tout ça. Voilà, donc, et puis après il y aura la distribution des colis pour les personnes de plus de 80 ans qui seront pas là au repas. Donc on a à peu près 200 colis à distribuer, donc ils vont être préparés, donc on distribuera juste après le repas. Donc on compte sur les personnes, les élus qui pourront éventuellement participer à cette distribution, voilà, qui fait toujours plaisir aux gens, voilà, pour avoir un petit contact avant les fêtes. Voilà, globalement, donc le repas le 28, avec une petite animation musicale avec Serge Gros, et puis un repas servi... par un de nos traiteurs local. C'est le Petit Détour qui est à son atelier sur Vinay maintenant et qui est bien sûr un restaurant sur Teche. Voilà, tout simplement. Donc on compte sur vous pour venir nous donner un coup de main pour toutes les personnes disponibles, en sachant que c'est un vendredi, mais un peu comme à l'accoutumée. Donc on compte sur vous. Merci.
Dernière information. Donc le 19 décembre, il y aura également le Noël des agents. Donc si vous les notez dans vos plaquettes, il y a beaucoup de choses en ce moment.
Oui, j'avais une question. Alors bien sûr, j'aurai la réponse peut-être que la prochaine fois, ce n'est pas grave. Le mois dernier, par délibération 2025-53, on a voté la reprise d'une partie du terrain, on va dire de la descente Merche, pour simplifier. Oui. Je crois que ça s'appelle Cyprien Julin, non ?
Oui.
Voilà, ça arrive sur Cyprien G1 et la même demande avait été faite par l'impasse Aveline dès l'arrivée de notre mandat Je voulais savoir où en a été la réponse pour les mêmes raisons, exactement pour les mêmes raisons.
Aveline, rappelle aussi.
Aveline, c'est le... C'est où il y a M. Dupuis qui habite, ouais. L'ancien pompier.
Pour une raison très simple, c'est que sur les Avelines, ça touche le lotissement,
oui,
La Noiseraie. Et qu'en son temps, ce lotissement a refusé le passage, qu'il y ait une jonction entre les deux lotissements. Donc c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a toujours le grillage, même s'il passe d'une manière informelle, mais d'une manière obligatoire, ça a été refusé. Donc ça, le passage a été refusé. Donc si on parle de celui-là. Hein. Donc, voilà. Et l'autre côté, en contrario, il y a un passage, il y a un lien direct, et du coup les piétons peuvent, le lotissement, la Rondeau-Vallière peut redescendre pour cette impasse. Alors que l'autre côté, officiellement, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, à un moment donné, on peut pas, à un moment donné, bloquer, débloquer, et on est sur une voie ancienne qui nécessite donc des mises aux normes importantes, alors que sur rue Cyprien-Julin, on est sur une voie qui nécessite très peu de travaux, puisqu'on la reprendra, puisqu'on n'a encore pas fini les démarches, que si le propriétaire remet en état le chemin à minima. Donc c'est pour ça. Mais en tous les cas, les Avelines, ça ne m'est pas revenu récemment.
Je ne dis pas que ça t'est revenu. Hein, demandé de poser la question, pose la question.
Mais voilà. Moi, la réponse, je n'ai même pas le souvenir que de mon mandat, ça m'était demandé.
Si, dès la première année, parce que ça avait été refusé autant de ton prédécesseur, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient bloqué le passage.
Ouais, enfin, l'histoire n'est pas tout à fait là, parce que je la connais pour d'autres raisons.
Non, mais voilà ce qui m'a... Voilà, on me demande
surtout,
de poser une question,
Et surtout, la longueur et les frais ne sont pas les mêmes. Quoi. C'est surtout ça. Voilà. Merci, bonne soirée à tous.